Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La PMA, c'est la possibilité offerte de constituer des modèles différents de famille, a déclaré récemment la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, lors d'une audition au Sénat. Une audition qui avait lieu dans le cadre des révisions des lois de bioéthique qui suivent leur cours et sont donc actuellement examinées devant la Chambre haute du Parlement français. Des révisions qui ouvrent bien des questions et laissent souvent interdites, tant les propositions nous semblent ne pas être frappées au coin du bon sens. À mi-chemin de l'examen de ce projet de loi, le découragement gagne de plus en plus de chrétiens interdits qu'ils sont devant ces changements de civilisation. La sinistrose, une véritable tentation à entendre notre invité de ce matin, persuadé qu'il est que les chrétiens peuvent encore être porteurs d'une interrogation éthique. Révolution bioéthique, une chance pour les chrétiens, c'est le thème donc de l'émission Vivante Église de ce matin, émission de reprise. Bonne année à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre avec fidélité. Pour nous accompagner ce matin dans ce sujet que l'on essaye de suivre aussi bien que l'on peut, car Dieu sait s'il est important, Vincent Grégoire Delory, vous êtes docteur en philosophie et en sciences de l'univers et doyen de la faculté libre des lettres et sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour et très très belle année à tous.
Merci beaucoup d'avoir fait un détour par nos studios. J'espère qu'on ne vous a pas fait revenir de vacances. En tout cas, le 15 janvier prochain, donc vous donnez une conférence à Toulouse. On redonnera tous les renseignements pratiques donc sur ce thème, ou presque. Le titre exact de votre conférence, c'est « Révolution bioéthique, une chance pour la vision chrétienne de l'homme ». Allez, première question. Vous dites que vous n'êtes pas découragé, alors que le projet de loi semble presque plié, même si maintenant le temps est venu des auditions devant le Sénat, avant son examen par le Sénat. On sait que le Sénat peut donner son avis, mais qu'il n'a pas tout à fait la main. Certains journalistes disent qu'il y a une forme de burn-out militant chez les catholiques, chez les chrétiens. Qu'est-ce que vous diriez de ce découragement ?
Alors. Oui, alors avant de parler de découragement, peut-être serait-il bon de revenir sur tout simplement sur les mots. Car en effet, on parle actuellement beaucoup de loi de bioéthique. Et ça me semble très surprenant. Car en effet, la bioéthique, l'éthique est une posture. L'expression d'une posture, d'une relation à autrui. Et la loi, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. La loi positive, la loi des hommes. Or, loi de bioéthique, c'est très étonnant parce que finalement, l'éthique est tout sauf de la loi. Une loi peut consacrer quelque chose de moralement mauvais, par exemple. La loi, c'est une loi qui suit souvent, et c'est le cas actuellement dans notre monde, un petit peu les modes d'un moment, d'un jour, qui suit les évolutions de la société. Or, la loi, en effet, est telle, mais l'éthique, le lieu de réflexion éthique, le lieu profond de réflexion sur la relation à autrui, ah ben là, c'est autre chose, c'est complètement autre chose, et c'est là où nous avons à intervenir. La loi passera, mais nous, nos interrogations, nos réflexions, ce que nous avons à poser à la société, à proposer à la société, ce que nous avons à réfléchir avec la société, à accompagner la société, cela demeure. C'est là le lieu, je crois, de l'optimisme que j'aimerais développer peut-être un petit peu devant vous aujourd'hui.
Alors, on va y venir justement. En tout cas, ce qu'on entend dans votre réponse, c'est que vous travaillez aussi à aider les chrétiens à voir à long terme, à relever la tête et peut-être à voir que l'horizon est au-delà de ces révisions. Si on commençait tout simplement par essayer de définir ce dont on parle. Alors, il y a une chronique à cette antenne régulière qui revient même aujourd'hui donc sur les différents articles de loi de ce projet de loi donc de révision de bioéthique pour essayer de détailler ce qui est en cours. J'ai fait bien des émissions. Vous dites pas bioéthique mais biotechnologie. Dans votre exposé, j'ai vu qu'il y avait même un passage où vous parlez de bio-nanotechnologie.
Oui.
Alors, au regard de votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez citer comme de quoi parle-t-on ? Par exemple, vous voulez élargir un petit peu le sujet. Bio-nanotechnologie, c'est quoi ?
Alors, si on devait reprendre un petit peu les choses dans leur contexte large, on pourrait dire que depuis que l'homme a maîtrisé un petit peu le vivant, on va dire depuis la révolution néolithique, eh bien, depuis toujours, presque, à notre échelle, eh bien, nous modifions le vivant. Nous modifions les végétaux, les animaux. Nous les faisons un petit peu pour nos propres besoins. Le maïs, le blé, tout cela, ça a été plus, petit à petit fabriquées par l'humain. Ainsi donc, l'humain fait des biotechnologies depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires, dans la mesure où il modifie le vivant. Simplement, ce qui se passe de nos jours, c'est que nous sommes capables de modifier le vivant, non pas par petites touches successives liées au hasard des manipulations que nous pouvons faire, mais nous le modifions directement à l'échelle moléculaire, à savoir en particulier au niveau de l'ADN. Ainsi donc, actuellement, nous avons une vision et nous avons une échelle de travaux à l'échelle nanométrique, nous travaillons à l'échelle des molécules, et les bio-nanotechnologies, finalement, c'est la convergence entre les techniques que nous avons sur les atomes, sur les molécules, et les techniques que nous avons sur le vivant.
Ça donne quoi, par exemple? Vous pouvez citer un exemple?
Ça donne, par exemple, la modification profonde, par exemple, de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN, depuis longtemps, on sait qu'on peut faire des transgènes. On sait qu'on a des maïs OGM dont on parle depuis fort longtemps, avec une modification d'un gène. Mais ça donne désormais à la fabrication entière de molécules d'ADN. C'est ainsi que, depuis 2010, un être vivant existe avec un ADN entièrement fabriqué artificiellement, donc un être vivant qui n'a pas d'ancêtre finalement. Son nom est Mycoplasma Laboratorium, c'est Greg Venter aux États-Unis qui l'a mis au point en 2010. C'est-à-dire qu'on est capable donc désormais de modifier entièrement, de fabriquer de l'ADN.
Et c'est quoi? En l'occurrence, c'est quelque chose qui a grandi ou
oui,
qui...
oui, c'est-à-dire que c'est un mycoplasme, donc c'est un être unicellulaire qui désormais porte un ADN entièrement fabriqué en laboratoire et qui a grandi, s'est développé, a fait des colonies. Voilà, donc on est capable de cela désormais.
Alors ça, c'est cette présentation. Est-ce qu'il y a des on va dire des... Recommençons par un exemple. Est-ce qu'il y a des... Celle-là peut faire frémir, mais aussi votre propos, c'est d'essayer de voir en quoi cela peut être une chance ou un progrès. Si vous deviez tirer de votre chapeau et de nombreuses choses que vous avez vues, entendues sur ce sujet, biotechnologie, découverte extraordinaire, ce serait quoi?
Je pense que les découvertes extraordinaires, c'est de considérer, par exemple, des micro-organismes comme, finalement, à l'image de petites usines. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que ces micro-organismes qui ont leur vie propre, nous les modifions, on est capable de les modifier pour qu'ils produisent des molécules que nous cherchons à obtenir, par exemple, à des fins médicales. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut désormais obtenir des molécules complexes, des molécules très difficiles à obtenir par voie purement chimique, mais que nous obtenons par justement des modifications des voies métaboliques du vivant qui produisent donc ces molécules, qui nous permettent d'avoir par exemple à des prix beaucoup plus faibles des molécules qui vont être utilisables pour des quantités de maladies, que ce soit par exemple l'artémisinine pour le paludisme, ou alors des molécules visant des chimiothérapies par exemple.
Parce qu'on arrive à en produire de manière artificielle ou parce qu'on sait comment les reproduire?
C'est-à-dire on veut par exemple une molécule, on cherche une molécule, on veut obtenir une molécule précise, avec des structures précises. Eh bien, on est capable de programmer, si vous voulez, entre guillemets, l'ADN d'une bactérie pour qu'elle produise cette molécule précise qui va nous servir ensuite pour me mettre dans un médicament, par exemple. Voilà. Donc les progrès pharmaceutiques sont énormes vis-à-vis de cette question-là. Donc on peut, si vous voulez, le vivant devient une sorte de châssis, c'est là où c'est assez étonnant, un châssis sur lequel on va programmer un certain nombre de données, et ce châssis va fabriquer. Alors, c'est peut-être pas si simple, parce qu'on voit bien que c'est le vivant aussi ne réagit pas toujours comme on le voudrait, bien évidemment. Mais enfin, l'idée, elle est là, c'est d'utiliser le vivant comme une matrice qui va permettre d'obtenir des molécules qui vont être pour nous, pour les humains, utiles, par exemple, à des fins médicales.
Alors à vous entendre, on est comme dans une gare de triage, on peut aller, on va dire, à gauche et à droite pour le meilleur comme pour le pire. En quoi ce progrès n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les chrétiens, on va dire ce carrefour, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Alors, pour les chrétiens, je crois qu'il faut... Ce qui est intéressant, c'est de regarder et d'essayer de réfléchir, on va dire, peut-être à frais nouveaux, depuis cette fin de 20e siècle où les bio-nanotechnologies se sont beaucoup développées, et bien de regarder à frais nouveaux ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, dans notre corps, bien sûr. Quel est le statut de notre corps? Parce qu'on voit évidemment que cette convergence dont je viens de parler a l'air de nous dire que finalement notre corps est un peu comme une machine. Ah, ça c'est quand même... Est-ce que c'est vraiment le cas? Je viens moi-même à l'instant de vous dire qu'on utilisait des micro-organismes un petit peu comme des micro-usines. Oui, mais est-ce qu'un corps humain c'est ça? Est-ce que le corps humain, finalement, c'est une micro-usine, de la même manière qu'une bactérie est une micro, pourrait être reconnue comme telle? Est-ce que finalement, notre corps humain, et puis aussi notre statut d'être humain, le regard que nous portons, nous, les humains, sur nous-mêmes, corps, âme, esprit, eh bien, je pense qu'effectivement, ces biotechnologies, ces modifications profondes du vivant, ce nouveau regard que nous avons sur le vivant, on va certainement y revenir, ben, nous oblige certainement à repenser toujours plus profondément ce que nous, les humains, et particulièrement les chrétiens, nous disons de nous-mêmes dans notre corps, notre âme et notre esprit. Et là, je crois qu'effectivement, le danger pourrait être, là, si on doit parler de danger, de considérer que parce qu'on a trouvé, par exemple, des modifications métaboliques sur une bactérie qui permet, comme je disais à l'instant, de fabriquer telle ou telle molécule, eh bien, de se laisser aller vers une sorte de réductionnisme et de dire, ben, finalement, en humain, ben c'est pareil, c'est une espèce de machine, ben je vais en modifier telle ou telle partie, tel ou tel rouage, telle ou telle pièce, telle ou telle partie d'ADN, on va y revenir, et je vais donc construire un humain comme je construirais n'importe quelle machine ou comme j'ai obtenu des animaux par croisement, etc., etc. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, mais finalement, est-ce que nous, les êtres humains, ben nous nous considérons comme uniquement, on va y revenir, je suppose, en rapport les uns avec les autres, comme juxtaposés les uns avec les autres, et on se sert les uns des autres? Ou est-ce qu'on rentre plus profondément dans la relation à autrui? Est-ce qu'on rentre plus profondément dans ce que nous saisissons au travers d'autrui?
Alors on va y revenir. Vous faites un parallèle pour essayer d'expliquer dans quelle situation sont les chrétiens aujourd'hui. Un parallèle audacieux. Vous dites qu'on vit une période de transition et aussi vous laissez entendre peut-être une période de révolution, puisque le parallèle que vous faites, c'est que vous le faites entre la période révolutionnaire. Vous dites 15 janvier 2020, 15 janvier 1794, donc 15 janvier 2020, c'est la date de votre prochaine conférence. 15 janvier 1794, donc il y avait dans l'Église peut-être deux manières de faire face à la Révolution française, celle de l'abbé Grégoire et de l'abbé Chaminade. Alors rappelez-nous le contexte de 1794, ça on l'a en tête. Oui. Mais c'est ces deux abbés et leur choix.
Ben, le 15 janvier 1794, ou plutôt le 26 Nivose en deux, si on se place à cette époque-là, et si on essaie de faire, on ferme les yeux, on essaie de voyager dans le temps, et on est chrétien, le 26 Nivose en deux. Chrétien, à cette époque-là, c'était quand même pas toujours du gâteau, si je puis dire. Le 21 janvier de l'année précédente, le roi, qu'on considérait comme absolument intouchable, vient d'être guillotiné, la reine a suivi le 16 octobre. En ce mois de janvier 1794, bien, un mois plus tard, les colonnes infernales vont s'abattre sur la Vendée, les églises sont la plupart fermées, et pourtant les chrétiens sont là. On l'oublie beaucoup, mais avec des figures de chrétiens parfois très, on va dire, comme qu'on a pu opposer les unes aux autres. Et j'ai pris comme exemple, effectivement, l'abbé Grégoire, très connu, cet abbé Grégoire qui va essayer de rester au cœur de la Révolution. Ces prêtres dits jureurs qui vont accepter la constitution civile du clergé, qui vont finalement rester loyaux vis-à-vis de la République, vivre au sein même de la tourmente révolutionnaire. L'abbé Grégoire va siéger à la Convention. Il va même siéger en habit religieux. Il est donc au cœur même du réacteur révolutionnaire. Et de ce fait, se coupera d'une certaine façon de Rome, ce qu'on va lui reprocher. À la même période, l'abbé Chaminade, c'est le fondateur des marianistes, lui est à Bordeaux, il se cache.
C'est un saint en l'occurrence.
Et voilà, et qui lui se cache, est aiguisé en rétameur, en vitrier, il fait des quantités de petits métiers, il se cache, il va d'une maison à l'autre, il donne les sacrements en cachette, et évidemment il risque sa vie. Mais on a donc deux figures, une figure d'une église qui reste malgré tout dans la tourmente, et une autre figure qui va se cacher, mais les deux, finalement, portent quelque chose. Ces deux personnages, une fois de plus, qu'on peut opposer, mais ils portent quelque chose, ils ont peut-être quelque chose à nous dire sur le monde actuel.
Allez, on va faire une première pause et puis on va rentrer après dans le vif du sujet. Quoique non, juste vous citez aussi Diogenète avec une citation célèbre. De même que l'âme est dans le corps, les chrétiens sont dans le monde. Beaucoup connaissent peut-être cette expression, savent pas forcément qu'elle est de Diogenète. Pourquoi avez-vous choisi cette citation? L'âme est dans le corps, les chrétiens sont dans le monde.
Disons que cette fameuse lettre à Diogenète, qui est un texte très ancien de chrétiens, signifie que les chrétiens, finalement, c'est ce qui est un petit peu avant dans le texte, avant de conclure comme cela, que les chrétiens sont comme tout le monde. Ils vivent comme tout le monde, ils mangent comme tout le monde, ils s'habillent comme tout le monde, ils sont dans les sociétés exactement comme tout le monde, simplement ils sont pas que dans le monde, ils portent quelque chose de beaucoup plus fort qui est finalement cette âme du monde. Mais pour autant, ils sont dans le monde. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit à l'instant, que ces deux abbés révolutionnaires, qui étaient à leur façon aussi dans le monde, avec des choix différents, mais qui étaient dans le monde, et nous sommes, nous, tous, chrétiens, dans le monde, on nous voit pas, on n'a pas de signes distinctifs, on n'a pas de choses très particulières, simplement, nous portons quelque chose qui est de l'ordre de l'âme du monde, et je pense que c'est ce dont on va parler.
Et Diogenès, donc un peu plus haut dans la citation que vous donnez, dit « Leur manière de vivre est plus parfaite que les lois ». Voilà, oui, on va voir si on peut avoir une manière plus parfaite de vivre ou d'envisager ces révisions des lois de bioéthique que les lois ou les révisions en cours. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour essayer de s'arrêter sur des points d'actualité et voir si, on va dire, si grand dégagement philosophique et éthique que vous faites, à l'occasion de ces révisions.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Révolution bioéthique, une chance pour les chrétiens, point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette émission de rentrée en cette année 2020 déjà. Vincent Grégoire Delory, ça nous donne un coup de vieux, hein. Docteur en philosophie et en sciences de l'univers, vous souriez aussi, doyen de la faculté libre des lettres et de sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, on se plonge encore un peu plus dans le vif du sujet. On va parler d'un point d'actualité, c'est un point d'actualité dont on a beaucoup entendu parler. Vous posez donc une première question, votre première question, c'est cause finale versus liberté. Le point d'actualité est le suivant, c'est tout simplement la légalisation donc, de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules. Je m'appuierai pour vous lancer sur ce point d'actualité sur l'éditorial de Jean-Claude Souliri, qui est donc rédacteur en chef pour La Dépêche, qui dans un éditorial donc de juillet 2018 disait « L'heure est donc venue de concrétiser cet engagement, l'engagement de campagne d'Emmanuel Macron. » D'ailleurs, c'était un engagement de campagne, mais c'était pas dans son programme, et de mettre un terme par la loi à une évidente discrimination qui enfreint nos principes d'égalité. On aurait pu citer aussi Yvan Rioufol, qui lui, dans le Figaro, se demande si cette ouverture n'est pas un premier pas vers d'autres légalisations. Mariage gay, la polygamie, point d'interrogation, disant qu'une brèche ouverte a été, qu'on peut ouvrir la porte à tous les particularismes et égalitarismes. Ce premier point d'actualité, juste pour si vous deviez continuer à le situer, qu'est-ce que vous pourriez apporter comme point complémentaire ? Vous pensez que tout le monde a déjà tout en tête sur ce sujet ?
Sur la question du
procréation médicalement assistée, mariage homosexuel.
Ben, disons que ce que ça m'évoque, là, vous venez de le dire, c'est la question de l'égalité. Le monde actuel est beaucoup très sensible, on va dire le monde actuel, le monde moderne, est très sensible à cette question d'égalité. C'est vrai que l'égalité fait partie de la devise liberté, égalité. Cette question d'égalité devient un fondement très important, un grand linéament de fond de notre société. Or, cette égalité, elle se déploie désormais dans tous les moments de notre vie, jusqu'à y compris le mariage, où en effet, le mariage tel qu'il était jusqu'en 2013, je crois qu'au moment du passage vers le mariage pour tous, est un mariage qui était situé avec une cause finale. C'est-à-dire qu'une cause finale du mariage, c'était on se mariait en vue de faire des enfants. On pouvait ne pas en avoir, bien évidemment, mais enfin, c'était vraiment la cause finale, l'idée que le mariage était ordonné à quelque chose, était tendu vers ce quelque chose, c'était donc tout simplement la procréation, l'enfantement et les générations successives.
Et le mariage aussi précisé, enfin, pour m'être marié civilement, la responsabilité aussi sociale.
Voilà, c'est responsabilité sociale.
Le couple est ouvert et au service de la société.
Voilà.
Y compris ou particulièrement à travers la procréation et l'éducation des enfants.
Voilà. Et de fait, ça, c'était une évidence, ce mariage-là, qu'il y avait cette finalité, cette ouverture, qu'elle soit sociale, qu'elle soit de l'enfantement. Simplement, la grande révolution qu'il y a eu en ce début du XXIe siècle a été non plus de construire le mariage vers cette finalité, au travers d'une finalité tendue vers cette finalité, mais plus vers la liberté d'aimer. C'est-à-dire on fondera le mariage sur la liberté d'aimer, homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, comme s'il devait y avoir une égalité absolue dans tous les comportements d'amour. Et de fait, on ne peut enlever à personne le droit d'aimer. C'est une évidence stricte et simplement cette
alors quelle est la question éthique que ça pose avant de voir ce que les chrétiens ont à dire sur ce sujet.
Voilà, mais la question que ça pose,
si vous deviez décortiquer.
Oui, du coup, à partir du moment où c'est fondé sur l'égalité et la liberté d'aimer, alors effectivement un couple homosexuel parfaitement libre d'aimer. Et cela suppose donc, ça c'était évident, on le voyait dès 2013, et ça suppose donc de développer des nouvelles formes de filiation, mais qui ne sont plus des filiations telles qu'on les connaissait jusqu'à présent, père, mère et enfant. Et cette liberté d'aimer, par exemple, si on prend...
Des modèles différents de famille, dit donc Nicole Belloubet.
C'est ouais. Ça, des modèles différents de famille, mais qui passeront donc par des regards différents que nous portons sur le corps humain. En particulier, vous avez parlé donc de la PMA pour les femmes seules ou pour les femmes homosexuelles, mais je pense que là où on va vraiment le voir dans les débats bioéthiques de ces prochains temps, c'est quand il s'agira de parler de la grossesse pour autrui. Parce que là, c'est vraiment encore autre chose, c'est-à-dire que ça suppose pour des hommes homosexuels, en désir d'enfant, de passer par un tiers utérus et donc d'avoir la possibilité d'une fécondation par tiers. Et donc à ce moment-là...
Ou la PMA post-mortem aussi, c'est...
Alors la PMA aussi post-mortem, c'est vrai. Mais tout cela, évidemment, ça pose toujours... Ce qui est intéressant...
Avec question éthique que ça pose, quelle est-elle précisément sur ce sujet, c'est...
La question éthique que ça pose, c'est le rapport... C'est exactement la relation avec le corps d'autrui. Est-ce que je peux ou pas utiliser le corps d'autrui, vous venez de le dire, soit post-mortem, soit tout simplement le corps d'autrui qui n'est pas mari ou femme, mais qui va je vais utiliser ce corps un petit peu comme tout à l'heure, je vous parlais de bactéries qu'on utilise comme des micro-usines. Et bien, je veux dire, pourquoi ne pas utiliser du coup des ventres comme des micro-usines qui me font des petites usines qui vont m'amener à faire des enfants, non pas au sein d'un couple, mais à partir d'une filiation différente. Donc ça pose, au-delà du question de la loi, il faut être bien précis, parce que la loi peut tout établir. La loi peut admettre demain que c'est légal. Bon, bien sûr, on peut même établir que le couple disparaît, que maintenant on peut être 2, 3, 4. Tout ça, la loi peut le consacrer, ça ne pose pas vraiment de problème. Ce qui va poser problème, c'est le rapport que ça va induire des humains les uns vis-à-vis des autres. C'est ça qui est important, parce que la loi, elle peut passer. Mais ce que cela donne, c'est une l'idée selon laquelle, finalement, votre corps, le mien, le corps de tous, peut être utilisable à des fins particulières. Et c'est ça, la question éthique extrêmement importante, c'est de se dire, au nom de l'égalité, au nom de la liberté d'aimer, et ça ne peut l'enlever à personne, et je le répète, il ne s'agit pas de critiquer l'amour que l'on porte les uns sur les autres. Il s'agit de se poser la question des conséquences que cela a au travers, justement, de l'idée que pour être libre d'aimer, eh bien, je vais utiliser un corps tiers.
Alors, si les chrétiens ont quelque chose à dire sur ce sujet, qu'est-ce que ça serait ? On s'est dit que pour chacun des points que vous soulevez, donc là, on va dire le mariage qui aujourd'hui, qui jusque-là avait une finalité très explicite, même si aujourd'hui la filiation existe, hein, puisqu'il y a possibilité justement de l'adoption, et puis la PMA peut être donc considérée comme une filiation. Hein. Donc ça, c'est finalité versus liberté. Alors l'exemple, la question éthique, les chrétiens là-dessus, qu'est-ce qui
alors je pense que pour les chrétiens,
qu'ils peuvent apporter comme âme.
Comme âme, ben justement, ce qu'on peut apporter, et je pense que ça va être un petit peu le fil rouge aussi de cette discussion, c'est repenser, revivre, toujours à frais nouveau, la notion de relation. Sommes-nous en effet dans une société des corps juxtaposés les uns à côté des autres, en simple rapport les uns à côté des autres? Je me sers de vous, vous servez de moi, on se sert les uns des autres. On n'est pas du tout dans une altérité, on n'est pas du tout dans une réflexion profonde d'une relation, mais on finit par devenir un petit peu des dominos les uns à côté des autres. On en fait tomber certains, on en modifie d'autres. Je crois qu'elle est là, la question. Comment les chrétiens peuvent-ils se contenter de vivre dans une société de simple rapport? Or, on voit bien notre foi, l'histoire...
Vous ne dites pas que c'est la sacralité du corps, en fait, qui doit être, être mise en regard
de cette
marchandisation.
Au travers de la relation, c'est ça. Mais au travers, ce qui est important, c'est au travers de cette notion de relation. Car en effet, on le disait tout à l'heure hors antenne, on peut saisir la différence entre ces deux notions. Si je vous parle de rapport sexuel ou de relation sexuelle, on n'est pas dans le même cadre. On peut tarifier un rapport sexuel. Une relation sexuelle, c'est vraiment autre chose. Et je crois que le chrétien, nous portons ce Dieu relation. Nous portons ce Dieu qui est relation même avec lui-même, en lui-même, ce Dieu Trinité. Et toujours réexplorer plus finement cette relation dans notre corps, âme, esprit, cette finalité finalement, cette finesse de l'esprit humain qui cherche et qui a ce besoin fort de rentrer en relation avec autrui. Comment puis-je vous comprendre alors que je ne vous comprendrai jamais, mais comment puis-je rentrer en relation avec vous et comment puis-je essayer de construire quelque chose avec vous? Et ça, je crois qu'effectivement pour les chrétiens, on voit bien que la GPA, au-delà du simple fait marchandisation, bien sûr, et ça le sera, car ça peut être de la marchandisation, vous avez raison, mais au-delà même de cette question de marchandisation, en amont, il y a la question vraiment de savoir comment je pense et comment je vis la relation avec autrui.
Voilà, donc la relation comme une manière de revisiter ou d'éclairer notre liberté pour essayer de se demander si on est ou pas en train d'instrumentaliser l'autre ou soi-même, ou en tout cas le corps de l'autre ou le sien. L'autre point, donc, c'est, vous mettez métaphysique versus réductionnisme. Alors, il faut expliquer un petit peu ce qu'est le réductionnisme.
Oui.
Je vous lancerai avec un exemple, enfin non, avec une citation du pape François. Voilà, vous parlez donc de paradigme technoscientifique aussi. Le pape François qui, dans l'encyclique Laudato Si, donc utilise des termes presque, presque voisins et qui, en tout cas, lors d'une intervention au Vatican en septembre 2019, revenait donc sur ses idées et disait la chose suivante: l'humanité peut tirer du progrès technologique, le bénéfice indiscutable que l'humanité peut tirer du progrès technologique dépendra de la mesure dans laquelle les nouvelles possibilités à disposition seront utilisées de façon éthique. Il parlait de paradigme technocratique, d'un progrès incontrôlé et illimité. Juste, pourquoi ces termes paradigme technocratique, vous dites paradigme technoscientifique, ça veut dire quoi en fait? Ça peut avoir un petit côté un peu complotiste si on le lit rapidement.
Je ne pense pas que ce soit une question vraiment de complot, mais effectivement c'est une posture plus exactement. Posture dont vous venez de parler du pape, déjà en 1948, Bernanos. Déjà pointé cette question, La France contre les robots, un livre je trouve extrêmement clairvoyant de Bernanos, où effectivement le progrès, comme vous venez de le dire à l'instant, le progrès c'est le progrès, la science évolue, la science avance, on fait des découvertes de jour en jour plus fines et plus extraordinaires, simplement effectivement c'est l'usage de cette science qui va être important. Et quand vous parliez tout à l'heure de la question du réductionnisme, en effet le progrès scientifique...
Paradigme technocratique. Technoscientifique, ça veut dire quoi?
C'est l'idée que tout se résout dans la question des technosciences. Comme si, vous savez, au siècle dernier déjà, ou au siècle avant, l'évolution de la pensée scientifique a toujours donné un certain nombre de prophètes qui a annoncé avant tout le monde que la science allait tout résoudre, allait tout comprendre, c'était fini. Et là, de plus en plus, enfin, de siècle en siècle, on va dire, actuellement, c'est les biotechnologies qui sont mises en avant. Le siècle du 19e, c'est plutôt la chimie. Le 20e, c'était plutôt la physique. Maintenant, c'est plutôt les biotechnologies. Où on se dit que finalement, ça y est, on va tout trouver, on va tout résoudre. Comme si on pouvait réduire l'ensemble de ce que nous connaissons à un certain nombre de connaissances scientifiques. Or, cette réduction, c'est-à-dire cette espèce de fascination que nous avons pour les sciences, même fascination tout à fait de bon aloi, c'est vrai que c'est fascinant, cette fascination peut parfois nous conduire à ne reconnaître que ça, comme s'il n'y avait qu'une seule articulation possible de la pensée, qui est celle des sciences. Comme si tout se résumait tout pouvait se comprendre au travers des sciences.
Alors en négatif, c'est cette question qui est posée, c'est-à-dire la science ne peut pas être, ne peut pas remplacer l'éthique, c'est ça?
Disons que la science, pour elle-même, il y a des avancées. Simplement, l'usage, c'est ce que dit le pape du reste, l'usage de ces progrès demande à être pensé vers des buts, vers des biens précis, vers des finalités précises, finalités qui doivent aller vers le bien de l'homme et non pas vers une destruction, vers la destruction tout simplement de l'humanité. Et je crois que la question est là, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec de la science, détruire, construire, mais ça demande toujours de faire un pas de côté, de réfléchir, de se dire voilà, j'ai une nouveauté, est-ce que je dois l'utiliser ou pas, en fonction des valeurs que je considère comme miennes par rapport à ce que je pense moi-même de l'humain, de ce qu'est un humain, d'un humain en particulier en relation.
Alors on verra justement on va voir juste tout de suite ce que les chrétiens ont peut-être à dire sur ce conflit métaphysique réductionnisme. Vous dites l'exemple qu'on s'était dit qu'on pourrait citer, c'est donc ce chercheur chinois qui a créé donc le premier bébé OGM. Mmh. Ce sont donc des jumelles qui ont été modifiées génétiquement. Et qui a été condamné récemment, c'était en décembre dernier, par la justice chinoise à 3 ans de prison et 3 millions de... près de 400 000 euros d'amende en équivalent au yuan. Alors les chrétiens là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Vous citiez Bernanos tout à l'heure, la France contre les robots. Une des phrases que vous citez, c'est « les machines se sont perfectionnées trop vite pour que l'homme ait eu le temps de devenir meilleur ». Le rôle des chrétiens, qu'est-ce serait-il? Tout simplement d'inviter à temporiser et à prendre le temps de réfléchir, d'autres pourraient le faire à notre place.
Bien évidemment, je pense que tout le monde peut prendre le temps de réfléchir, ça c'est évident, on peut le faire sans être chrétien, bien sûr.
Alors sur ce point particulier, qu'est-ce qu'ils ont à apporter?
Sur ce plan particulier, toujours je suis mon fil rouge. Regardez, on a découvert, donc je veux continuer de parler d'ADN, de biologie, de biotechnologie, on a découvert il y a maintenant plus de 25 ans, cette question de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le fait qu'on pensait longtemps, hein, peut-être que beaucoup de nos auditeurs s'imaginent ça, que notre ADN, on pensait que c'était une sorte de programme. Nous naissons avec un programme et le programme s'exécute. C'est ainsi que nous sommes. En gros, c'est un petit peu cette idée, la métaphore de l'ordinateur. On a cru ça très longtemps. Et on s'est rendu compte que finalement, ben, c'est pas ça du tout.
Que deux personnes peuvent avoir les mêmes...
Exactement le même génome, mais ne pas se développer de la même manière. Alors pourquoi ? Alors, tout simplement, ben, parce qu'on s'est rendu compte que dès lors qu'une cellule vivante est dans un micro-environnement plus ou moins stressé, plus ou moins nourri, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, eh bien l'ADN va s'exprimer de manière différenciée. Ce qui veut dire, et c'est là où les chrétiens ont un petit mot à dire extrêmement intéressant, ce qui veut dire que l'évolution même du corps dépend de la relation que ces corps ont les uns avec les autres.
Donc là, c'est relation au sens large, parce que l'épigénétique laisse entendre que...
Et si vous êtes stressé, eh bien vous allez avoir dans votre milieu cellulaire un certain nombre de paramètres qui vont varier, et ces paramètres vont permettre de développer tel ou tel, exprimer de manière différenciée l'ADN. C'est-à-dire que nous savions que nous étions uniques par notre ADN, mais nous sommes uniques dans la façon dont il s'exprime. Donc on est unique dans l'unique au travers des relations. Les relations que nous avons dans notre vie nous construisent, mais nous construisent biologiquement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que la relation n'est pas qu'une simple idée, en se disant, tiens, c'est gentil, on est en relation les uns avec les autres.
Donc il peut y avoir une activation d'un gène à cause d'un stress. Est-ce que ça peut être aussi en fonction du fait d'être aimé ou pas être aimé aussi?
Oui.
Ça, on arrive à le démontrer cette interrogation
ça, Oui, il y a un certain nombre de pathologies, par exemple, dont on peut voir, par exemple, certains cancers. Hein, ici, à Toulouse, ça a été pas mal étudié, où effectivement, on a toujours pensé, vous savez, quand on dit qu'on somatise, que ceci, que cela, quand quelqu'un va passer un examen, et on peut somatiser, on peut avoir mal au ventre, que sais-je encore, on le sait. Mais maintenant, on sait de mieux en mieux comment ça se construit au niveau nanométrique. Et ce qui est formidable, c'est que si je prends tout simplement le cas d'une femme enceinte, eh bien, si les conditions de vie de cette femme changent, si elle est plus ou moins stressée, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, eh bien, l'expression du fœtus ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'on est aussi, en partie, ce que nous étions en relation avec notre mère in utero qui nous a construit. Nous ne sommes pas qu'un programme qui s'exécute. Et ça, c'est extrêmement important parce que les chrétiens, là-dessus, on a beaucoup de choses à dire. C'est effectivement cette question de la relation qui nous construit, qui fait ce que nous devenons par relation, a quand même des choses qui font écho avec notre foi. Et je crois que c'est là où on peut justement réfléchir à frais complètement nouveau ce réductionnisme. Nous ne sommes pas réductibles à un programme. Nous co-construisons dans les relations de notre vie, qu'elles soient bonnes, comme vous venez de le dire, l'amour, les belles relations, où parfois on peut être traumatisé par quelqu'un, etc., et aussi dans cet autre sens-là. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant.
Vincent Grégoire Delay, votre conférence, l'émission n'est pas finie, mais j'ai oublié de le citer avant la première pause musicale, c'est donc le 15 janvier prochain, 20h30, à la Maison diocésaine du Christ au Roi à Toulouse. C'est une conférence et après il y a des ateliers de réflexion, ça ne se veut pas être ex-cathédra. On fait une deuxième pause, pardon, et on va vous retrouver, je vais y arriver, pour d'autres sujets, vulnérabilité versus robustesse, la fameuse mort de la mort, annoncée entre autres, c'est le titre d'un livre de Laurent Alexandre, le grand prêtre, on va dire, du transhumanisme aujourd'hui, et on reparlera peut-être aussi de l'héritage versus la construction avec la manière que l'on peut avoir de jouer au Lego avec nos ADN. Thank you.
Radio Présence dans le Luchonnet, 94 FM. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Révolution bioéthique, une chance pour les chrétiens, point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce jeudi de début d'année 2020, avec nous Vincent Grégoire Delory, docteur en philosophie et en sciences de l'univers et doyen de la faculté libre des lettres et sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse. On a un invité, mais on prend le temps justement de l'écouter, qu'il puisse déployer sa pensée. C'est aussi pour ça, semble-t-il, que vous suivez cette radio. Elle peut apporter un regard complémentaire sur d'autres manières fort riches de d'autres médias d'aborder ces sujets d'actualité. Alors, autre point, donc je rappelle, cause finale versus liberté, vous nous avez parlé donc du mariage pour tous, métaphysique versus réductionnisme, l'homme n'est-il qu'une machine ou pas, maintenant héritage versus construction, c'est un autre point de réflexion que vous soulevez, vous parlez de l'ADN Lego, de l'enfant construit, si on revenait sur ce chercheur chinois, on l'a cité tout à l'heure, donc qui a été condamné en décembre dernier par la justice chinoise à la prison ferme pour avoir modifié donc les gènes de deux jumelles. Pour ça, il a utilisé donc une technique, le fameux ciseau du CRISPR-Cas9. Expliquez-nous ce qu'il a fait exactement.
Alors en fait,
Vincent Grégoire Delory.
C'est
et pourquoi c'est si grave?
C'est effroyablement simple, la technique de CRISPR-Cas9. C'est, comme vous venez de le dire, une sorte de ciseau moléculaire. C'est une technique qui permet d'accéder à la partie de l'ADN que l'on veut, de couper une partie et de recoller à partir, de recoller l'ADN tel qu'il est. C'est-à-dire on enlève une partie ou on remplace une partie qu'on a enlevée par un autre gène, par exemple artificiel. C'est très très simple et ça permet de... C'est un petit peu comme si on corrigeait un texte, un éditeur de texte, vous revenez sur votre page Word et hop, vous remplacez une lettre par une autre. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, quand on a ça en main, on se dit, mais c'est formidable, parce que je peux donc du coup aller à n'importe quelle partie de mon ADN, chercher des gènes qui pourraient dysfonctionner, par exemple.
Là, en l'occurrence, c'est ce qu'avançait le chercheur, il disait que...
Alors lui, ce qu'il a fait, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, il a modifié l'ADN, si j'ai bien compris, de façon à ce que les deux bébés qui à naître puissent être plus résistants au HIV. Parce que le père, il me semble-t-il, est porteur de la maladie. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que les enfants aient un ADN voulu, non plus hérité. Vous avez votre héritage, j'ai le mien. On est comme on est. Si on est heureux d'être comme on est, tant mieux pour nous. Sinon, ben voilà, on se fait à ce que nous sommes nous. Mais donc, nous avons donc hérité d'un ADN. Donc, l'idée désormais, c'est de dire, j'ai une technique qui va me permettre non plus d'hériter, mais finalement de faire en sorte que les descendants soient construits, reconstruits, selon des buts précis. Ça peut être des buts thérapeutiques, ne pas être malade, mais effectivement, ça pourrait parfaitement être des buts parfaitement
d'amélioration,
ça peut être des quantités de choses, parce qu'en effet, une fois de plus, les questions philosophiques, les questions éthiques partent toujours de questions de bon sens, de simplicité. On a envie tous de dire qu'on préférerait avoir des enfants parfaitement portants, sans maladie, sans rien, plutôt qu'ils soient malades, etc. C'est une évidence absolue.
Mais alors pourquoi est-ce si grave, Grégoire Delory? Parce que c'est vrai que le gouvernement chinois, de prime abord, vu de très loin, je ne suis pas les révisions des lois de bioéthique en Chine, mais on peut trouver surprenant qu'il ait condamné ce chercheur. Et en tout cas, la communauté internationale, pour l'instant, est complètement effrayée par cet outil. Alors, pourquoi est-ce si grave?
Parce que, tout pour une raison très très simple, c'est que la modification de l'espèce humaine se fait sans le consentement de qui que ce soit. Les bébés, on ne leur a pas demandé leur avis. Ils vont donc avoir des modifications génétiques qu'ils transmettront eux-mêmes à leur descendance. C'était ça qui est important. C'est qu'ensuite, elles se transmettent, ces modifications, ou d'autres, tout type de modifications. Et c'est ainsi qu'on accède à une orientation de l'espèce humaine. Donc, ça rappelle tout simplement l'eugénisme. C'est la condamnation habituelle dans nos sociétés de toucher à l'espèce humaine pour quelque raison que ce soit. Et donc, cette question eugénique est unanimement condamnée par la communauté internationale, jusqu'à y compris en Chine. C'est pour cette raison-là qu'il a été condamné. C'est en 1997, quand on avait admis le protocole d'Oviedo, c'était pour justement protéger l'humanité de ce genre de dérive où on ferait de l'humanité une sorte de laboratoire de tests et d'évolution dans tout type d'orientation.
Alors qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter sur ce sujet, si la condamnation est déjà unanime, construction versus héritage?
Construction versus héritage, c'est aussi la question de la vulnérabilité dont vous avez parlé il y a un instant. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, je peux avoir accès à l'autre, à l'être humain, à mes descendants ou à vous, à nous, je peux avoir accès à des connaissances biologiques, des connaissances fines. Mais cet accès, effectivement, est-ce que je peux le faire passer au-delà de la liberté d'autrui? Est-ce que, sans qu'on me demande mon avis, est-ce que je peux être moi-même modifié? Est-ce que finalement j'ai une existence propre, même si je suis un bébé, même si je suis un embryon? Est-ce que finalement je dois avoir une existence? Est-ce que j'existe en tant que tel, en tant qu'être humain? Ou suis-je simplement un châssis d'expérimentation? Et là-dessus, le chrétien a évidemment beaucoup de choses à dire. De respecter cette unicité de l'être humain, de respecter cette vulnérabilité et de la respecter vraiment au fond même de la relation humaine. C'est-à-dire que là, une fois de plus, on n'est plus dans la relation. Si je modifie comme je le veux moi, mes descendants, je ne regarde pas d'autrui une relation qui va se construire de manière profonde, mais j'impose à autrui ce que ma volonté, et ma seule volonté, qui peut être fausse, qui peut être erronée, ou en tout cas qui peut être partir dans toutes les directions, et je l'impose à autrui. Et ça, non. C'est-à-dire que le chrétien a toujours considéré que le plus petit, celui qui ne peut pas parler, celui qui... de protéger, pardon, toutes les vulnérabilités, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vouloir la vulnérabilité, mais la vivre dans la relation, dans notre relation. Vous parliez tout à l'heure de la mort d'Harry Moore, de Laurent Alexandre.
Alors justement, on y passe, puisque c'est le dernier point qu'on va aborder, on n'en a pas abordé 6 finalement, mais peu importe. Vulnérabilité versus robustesse, c'est un autre point d'attention. La mort de la mort, donc c'est une expression qu'on peut entendre dans les médias, c'est donc aussi le titre d'un livre de Laurent Alexandre, donc chantre, on va dire, du transhumanisme, en tout cas qui est vendu comme tel dans les médias et qui se vend aussi comme tel, avec ce sous-titre « Comment la techno-médecine va bouleverser l'humanité ». C'est apparu aux éditions Lattès il y a quelques temps de cela, je ne me souviens plus de la date, mais peu importe. La mort de la mort, ça donne un peu envie de rire de prime abord, non quand même,
c'est un slogan. C'est un slogan qui est très bien fait. C'est comme le mot intelligence artificielle. Ce sont des slogans qui sont très très bien faits et qui touchent les foules, qui touchent les masses. Effectivement, la mort de la mort, on se dit, tiens, si la science me permettait d'une manière ou d'une autre de vaincre cette absurdité apparente qu'est la mort. Pourquoi mourir? C'est vrai, pourquoi mourir? Ça peut faire peur, ça fait tout ce qu'il y a derrière la mort, on ne va pas revenir là-dessus, c'est une évidence absolue.
Quand il n'y a rien derrière, ça fait peur, c'est sûr.
Bon, ça dépend, s'il n'y a rien, il n'y a rien, donc il n'y a pas à avoir peur. S'il n'y a rien, c'est s'il y a quelque chose que ça peut devenir plus problématique, au contraire. Mais enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, la question est de se dire, mais finalement, si le vivant est une machine, si le vivant se réduit à cette machine, si je puis comprendre cette machine le plus possible, alors mon orgueil serait de dire, je vais la programmer de manière définitive pour qu'elle s'auto-reproduise sans jamais mourir.
Donc c'est le fameux téléchargement de son cerveau, parce que...
Non, alors c'est pas vraiment ça. Ça, c'est encore autre chose.
Il paraît que c'est
autre chose.
C'est
la question du corps biologique, c'est-à-dire que on étudie le vieillissement, on s'aperçoit que le vieillissement produit un certain nombre de réactions chimiques, biochimiques, et on se dit, mais après tout, si j'arrive à faire en sorte que le corps ne vieillisse pas, c'est-à-dire qu'il se rétablisse toujours automatiquement, que chaque cellule se reproduise et reste jeune, si vous voulez, si j'arrive à bloquer finalement le processus de vieillissement, alors, je vais par technoscience, au travers des technosciences, je vais pouvoir arriver à faire en sorte que mon corps ne vieillisse ou ne meure plus. En tout cas, ne meurt plus de manière naturelle. On pourrait toujours se suicider, on pourrait toujours, évidemment, mais on ne vieillirait plus d'une certaine façon. Et c'est là, un petit peu, la farce actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est joué sur les peurs de nos contemporains, la peur de la mort, la peur de ce grand mystère qu'est la mort, en se disant, ne vous inquiétez pas, parce que bientôt, on ne mourra plus. C'est extrêmement problématique, parce que d'une part, si vous allez dans les laboratoires de science, vous verrez que personne ne vous dit ça. L'idée de vaincre la mort au travers des biotechnologies, on ne voit pas. C'est un livre très, très célèbre de Laurent Alexandre. Il a vraiment fait le buzz, comme on dit désormais. Mais ce ne sont pas des choses qui sont à portée de main du tout.
C'est pas sérieux, c'est ça?
Non. Non, non, je ne pense pas.
Alors pourquoi vous en faites quand même un point de réflexion quand vous dites vulnérabilité versus robustesse?
Parce que j'en fais un point de réflexion parce que justement c'est l'appropriation de soi ultime. Après m'être approprié l'autre au travers par exemple de la grossesse pour autrui. Après m'être approprié l'autre au travers pourquoi pas de l'esclavage. Parce qu'après tout je peux très bien, si le corps d'autrui devient disponible, il peut se vendre comme esclave, comme ceci, comme cela.
Donc ça c'est la gestation pour autrui.
Ça peut être la gestation pour autrui, ça peut être pourquoi pas un esclavage aussi, un esclavage autre que cela. Si je, à force de m'approprier, ben finalement, je crois que l'orgueil suprême, c'est de m'approprier moi-même jusqu'à devenir moi-même immortel. Devenir moi-même totalement indépendant des autres. Et c'est ma seule vie qui compte et non plus la relation à autrui. Or, toute relation est vulnérabilité. Toute relation amène à se sentir vulnérable les uns vis-à-vis des autres.
C'est justement la question que j'allais vous poser. C'est pour finir, parce qu'on touche à la fin de l'émission. Sur ce point, pour reprendre le titre de l'émission et de votre prochaine conférence, une chance pour les chrétiens. En quoi est-ce une chance, du coup?
C'est une chance pour nous parce que nous pouvons annoncer la vulnérabilité comme la pierre d'angle de l'éthique. La vulnérabilité comme ce qui nous construit. La vulnérabilité et la relation comme le fond même de ce qu'est un être humain en relation, à savoir que mon corps va mourir peut-être, mais la relation, elle demeure. Et ça, je crois que c'est extrêmement important pour les chrétiens, d'avoir cette chance de dire, regardez, on vous parle de biotechnologie, on nous parle de la mort, on nous parle de la GPA. Oui, ce sont des questions de fond, mais c'est des questions de fond que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons évaluer au travers de notre spécificité d'être, nous, en relation, comme Dieu est relation. Et ça, je crois que cette question-là est extrêmement forte, ça nous ouvre une voie énorme de dire, attention, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce que l'humanité est de perdre relation, de rester en rapport qu'avec moi-même, d'être tout seul, voilà, tout seul, je ne veux plus vous voir, je ne veux avoir personne, je vais être seul, ou au contraire, cette relation tant et si bien pensée par les chrétiens, dans le christianisme en général, comment exprimer cette relation comme le fondement même de notre humanité? Et là, les chrétiens, on a un rôle à jouer extraordinaire.
Voilà, je retiens cette phrase hein, que vous avez dite là à l'instant. Le corps meurt, mais la relation ne meurt pas.
Oui.
Vincent Grégoire Delory, donc votre conférence pour ceux qui voudraient aller encore plus loin. Conférence donc et après atelier discussion réflexion pour toutes les personnes présentes. C'est donc le 15 janvier prochain 20h30 à la Maison du Christ Roi à Toulouse. Un grand merci à vous d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.